When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
La grande séance, l'interview.
La question qui m'est venue à l'esprit quand j'ai rencontré Daniel Thompson, c'est de lui demander si son amour pour l'art et pour la littérature l'avait amené à ce sujet.
Oh, sûrement quelque part c'est venu de là, mais c'est surtout venu de l'envie de parler des vrais hommes et pas des grands hommes. Donc ces hommes qui sont dont on a entendu parler tous dès l'école, et puis après on s'est plus ou moins intéressé évidemment à leur travail, parce qu'après tout c'est un travail comme un autre, et c'est un travail acharné. Et puis après ils sont devenus des vieux barbus à barbe blanche et des hommes très 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 célèbres dans le monde entier. Mais justement, ce qui m'a intéressé et ce que j'ai découvert à travers leur correspondance et puis des biographies de l'un et de l'autre, c'est vraiment justement le contraire de tout ça, c'est-à-dire leur vie de tous les jours, leur problèmes, leur mesquinerie, leur générosité, leur jalousie, voilà cette amitié là qui dévoile beaucoup de vérités sur ces êtres humains là qui ont vécu comme vous et moi et comme nous tous des déceptions, des trahisons, une vie sentimentale compliquée, l'humiliation même Zola d'ailleurs, parce que Zola a été extrêmement décrié en son temps, même s'il a bien très bien vécu de sa littérature, qui était une littérature très populaire, qui marchait très bien. Il s'est fait cracher à la figure beaucoup, alors ne parlons même pas de l'affaire Dreyfus plus tard, mais même ces livres, ça a été traîné dans la boue par beaucoup de critiques à l'époque. Cézanne, n'en parlons pas, personne ne l'aimait, donc, et il n'aimait d'ailleurs personne lui non plus. Mais tout ça m'a paru vraiment très intéressant pour plonger dans cet univers.
Alors, comme vous avez beaucoup travaillé, même au-delà de ce qu'on voit dans le film, je vais vous demander qui était Cézanne, comment vous le voyez, et qui était Zola. Zola d'abord, joué par Guillaume Canet. Quel genre de personnage? Un peu retenu, un peu...
Alors, je pense que c'est un humaniste, c'est un homme qui aime la vie, qui a une revanche à prendre sur une enfance vraiment dans la misère, et bien sûr toute son œuvre, tous ses livres sont plongé dans la vie de ces ouvriers, des gens simples, de qui vont des mineurs aux petites vendeuses du bonheur des dames, en passant par les filles des bordels. Enfin, c'est quelqu'un qui s'est complètement immergé dans la douleur sociale, et il est cité tous les jours à tort et à travers d'ailleurs. On dit c'est du Zola, même sans très bien savoir de quoi on parle, mais c'était vraiment un homme qui était impliqué dans la vie de son temps profondément, et qui je crois comprendre, et puis j'en ai beaucoup parlé avec son arrière petite fille Martine Lonzola qui adore le film, et qui me dit beaucoup qu'elle a retrouvé exactement pour elle ce qu'était son arrière-grand-père. C'était quelqu'un probablement assez timide dans sa relation avec les femmes, par exemple, alors que quand on lit La Nana, on a l'impression de quelqu'un de finalement... sa sensualité personnelle, elle est certainement cachée.
On sent ça dans le film d'ailleurs, dans la façon de jouer de Guillaume Canet.
Oui, on le sent parce que c'est un homme qui est bouleversé quand tout à coup il tombe fou amoureux à 48 ans d'une jeune fille de 20 ans et alors qu'il aime encore sa femme. Je pense pas que c'est quelqu'un. Je pense pas que c'était ce qu'on appelait à l'époque un homme à femme. Je pense pas qu'il avait beaucoup trompé sa femme. C'était quelqu'un qui a eu vraiment ces deux femmes dans sa vie. Donc c'était déjà assez compliqué comme ça. Mais je pense pas qu'il y en a eu 150 autres. Et tandis que, alors, pour parler du personnage de Cézanne, que moi j'ai complètement découvert, parce qu'on sait quand même tous un peu des choses sur la vie de Zola, notamment bien sûr, non seulement sa littérature, mais son engagement politique, J'accuse, tout l'épisode incroyable de l'affaire Dreyfus, qui se passe après mon film. Mais alors Cézanne, je pense qu'il en a rien à fiche de ce qui se passe en dehors de sa peinture. Il est enfermé dans son obsession de trouver quelque chose donc il le dit d'ailleurs dans ses lettres de d'arriver à peindre le vent et non pas l'arbre, non pas le soleil mais la chaleur du soleil. C'est vrai qu'on voit ces tableaux extraordinaires qu'il a peints autour de la montagne Sainte-Victoire. On entend, on sent la chaleur, on entend les criquets. Quand on tournait là-bas, on sentait ce qu'il avait réussi à peindre. Et donc, il est un obsessionnel de son travail. C'est pas quelqu'un qui aime les gens. C'est pas quelqu'un qui est ouvert sur tout ce qui se passe. Il s'en fout de la guerre de 70 qui va quand même être déchirée la France, la Commune qui va déchirer bien sûr encore une fois la France. Tout ça, il est enfermé dans sa maison, mais il est enfermé dans son univers de soleil et de violence de la nature. Mais ce qui se passe politiquement autour de lui, il s'en fout.
On le sent aussi dans la façon que Gallienne a de représenter le personnage. Il est en colère, il est ronchon, il a un peu d'amertume.
Oui, il est très humilié par le fait qu'il est très ignoré. Il est ignoré, ce qui est encore pire que d'être bafoué. Il n'existe pas pour les collectionneurs. Ne parlons évidemment pas du salon et de les institutions. Les copains peintres ne l'aiment pas beaucoup. Et puis on ne l'aime pas beaucoup parce qu'en plus il n'est pas très aimable. Donc il est agressif. En effet, il se lave pas, il s'habille pas, il se marginalise alors qu'il a été élevé dans une famille bourgeoise très propre sur elle, avec un père parvenu donc qui au contraire justement a essayé de s'élever dans la condition sociale. Lui, il en a rien à foutre de tout ça et au contraire il se clochardise à la limite. Il a une petite pension que lui donne son père, mais comme il vit avec une femme et un enfant qu'il a caché à son père parce qu'il a honte, il a un peu peur de son père et il a honte, donc il vit en utilisant tout cet argent beaucoup pour ses toiles et ses pinceaux et ses couleurs et ils vivent quasi dans la misère. Donc effectivement Zola les aide puisque lui à ce moment-là, et contrairement à son enfance, lui il gagne bien sa vie et voilà, tout est contraire dans leur histoire. Ils ont des chemins qu'ils arrivent à parcourir un peu la main dans la main pendant très très longtemps, mais en fait ces routes elles sont tout le temps en opposition.
Alors ce qui est drôle dans ce que vous dites, c'est que vous qui avez dirigé tant d'acteurs, vous avez dirigé Guillaume Gallienne et Guillaume Canet, ils sont très différents aussi sur un plateau, aussi différents que les caractères de Zola et de Cézanne étaient différents. Alors racontez-nous, parce que je pense que Gallienne est assez expansif et que Canet est assez retenu.
Oui et non, parce qu'en fait, dans la vraie vie, ils sont tous les deux, finalement, ils ont des moments, enfin, comme un peu nous tous, ils ont des moments, au contraire, où ils sont l'un et l'autre, d'ailleurs, de manière assez différente, mais très extravertis et très dans la rigolade, dans l'action, etc. Mais c'est vrai que ils se sont conditionnés pour ces personnages, c'est-à-dire que je les voyais très très bien, alors c'est le cas de le dire, se mettre dans la peau des personnages. maquillage, bon, effectivement, il y avait de longues séances de maquillage tous les matins, parce qu'ils étaient soit plus jeunes, soit plus vieux, soit... et donc, ils étaient dans un moment de préparation pour ce qui allait se passer dans les scènes qui allaient venir, et je les voyais se transformer dans leur tête. Ils arrivaient sur le plateau chargés de ce qu'ils allaient jouer. Et voilà, et les deux hommes de 40 ans avec lesquels j'avais dîné la veille et avec lesquels on avait ri et parlé et on s'était raconté des choses sur la vie privée, tout ça c'était parti, je retrouvais le matin deux hommes totalement différents qui étaient vraiment devenus pour moi Paul et Émile, et voilà, ça pouvait même parfois créer de la tension, parce que justement ils se préparaient à des scènes où il y avait de la tension, et c'était très très difficile de séparer les vrais rapports de la vraie vie avec les rapports qui avaient lieu entre Paul et Émile sur le plateau.
La grande séance, l'émission 100% cinéma de Séance Radio.
Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.